Vous écoutez Lille 1 Info comme chaque mercredi à 17h30, c'est sur Radio Campus, bien sûr. Voilà, notre invité aujourd'hui est Monsieur Guy Lippens, qui est donc directeur de recherche CNRS et responsable d'une bête mystérieuse qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Lippens.
Bonsoir.
Alors, l'Université de Lille 1 est pleine de trésors. Là, on a l'occasion de voir en ce moment une belle exposition consacrée à la lunette astronomique qui appartient à l'université et qui fête ses 100 ans. Est-ce qu'on pourra dire dans 100 ans que l'appareil dont on va parler aujourd'hui, et dont vous allez nous donner le nom et nous, bien sûr, expliciter un petit peu ce qu'on peut en faire, etc., sera dans 100 ans quelque chose dont on retiendra le nom et les usages ?
Le nom résonance magnétique nucléaire restera probablement comme il est resté depuis 60 ans, date de sa découverte, et on est quand même 5 prix Nobel plus loin. Donc la machine restera elle-même, est-ce qu'elle restera fonctionnelle ? Oui, même ça, parce qu'il s'agit d'un aimant, un énorme aimant, qui est un électro-aimant, donc on met du courant dans une bobine. Sauf que la bobine, elle est supraconductrice. Ça veut dire qu'une fois qu'on a branché, on a mis le courant dedans, je veux bien dire 250 ampères, une fois que branché, on débranche, le courant reste dedans ad vitam aeternam. Parce qu'on garde donc cette bobine qui contient le courant à une température proche du zéro absolu avec l'hélium liquide. Et ceci permet de maintenir le champ magnétique avec une durée de vie qui dépassera de loin ma retraite.
Donc ce champ magnétique, est-ce qu'il ne s'use que si l'on s'en sert? Et finalement, est-ce qu'il s'use? Et pourquoi?
Il ne s'use pas du tout parce qu'on s'en sert. La seule chose qui peut le faire user, c'est qu'on casse le froid et donc le fil supraconducteur, donc ça veut dire avec zéro perte, devient de nouveau conducteur. Mais tant qu'on fait le remplissage des cryofluides tous les 2 semaines en azote, tous les 6 semaines ou 7 semaines en hélium, a priori, le courant restera loin, loin, loin.
Donc vous aussi, vous êtes contraint à la chaîne du froid dont on parle dans d'autres métiers?
On est contraint en effet donc à la chaîne du froid, sauf que la chaîne du froid dans l'alimentaire concerne 4 degrés. Mm-hmm. Nous, on parle de moins 270 degrés, voire
c'est
moins 271.
C'est un peu plus dur et ça change la donne.
C'est surtout un peu plus cher.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est proportionnel ou exponentiel les frais par rapport à la température qui descend?
Clairement, donc tant qu'on est dans l'azote liquide, donc moins 60 degrés centigrades, les prix restent raisonnables. Quand on a besoin d'hélium liquide pour aller à 3 degrés Kelvin, donc moins 270, les prix augmentent très fortement.
Alors je suppose que si ces prix augmentent et que malgré tout il y a une consommation, entre guillemets, c'est qu'il y a un besoin. En quoi a-t-on besoin d'aller aussi bas dans les échelles de température ?
Le besoin, il est défini par le fil supraconducteur qui doit tenir un courant. Donc pour générer le champ magnétique qu'on veut, donc qui est ici de 21 tesla, pour générer ces champs, on a besoin de 250 ampères et il n'existe pas de fil qui est capable de tenir un tel courant à température ambiante. Donc les seuls fils qui sont des alliages très complexes avec du niobium, du éthane, de l'étain et tout ça dedans, ils doivent fonctionner à très très basse température pour pouvoir tenir la densité de courant et donc générer ces champs magnétiques énormes.
Mmh. Ce champ magnétique énorme, je suppose qu'il a des usages, des applications parfois différentes. Enfin, il y a peut-être des présentations que vous pouvez nous faire de vos partenaires ou des gens qui utilisent dans l'université et hors de l'université.
En RMN, donc, le champ magnétique nucléaire sert pour polariser donc, les petites boussoles, les petits spins qui sont sur les atomes. Donc, chaque atome d'hydrogène contient une propriété magique, quantique, qui s'appelle le spin, qui peut prendre 2 directions. C'est une toute petite flèche qui peut être ou parallèle ou antiparallèle avec le champ magnétique. Et en augmentant le champ magnétique, le nombre de petites flèches qui vont s'orienter parallèles augmente. Ce qui fait que macroscopiquement, si on somme toutes ces petites flèches, on obtient une aimantation macroscopique. Et celle-là, on va pouvoir la détecter et donc de là obtenir une signature de chaque hydrogène individuel dans une molécule d'une complexité énorme. Ceci peut être une toute petite molécule, un CO2, mais ça peut être aussi une macromolécule biologique, une protéine qui est impliquée dans le cancer ou autre chose.
Est-ce qu'on peut dire que vous allez jusqu'au cœur des noyaux de cellules ?
Donc le N de RMN, c'est bien nucléaire parce que le spin est une propriété du noyau. C'est une propriété du noyau. D'un autre côté, on n'est pas du tout impliqué dans la partie nucléaire comme radioactivité parce que le spin est une propriété permanente. Il n'y a pas de désintégration du spin à un certain moment ou l'autre.
Mmh. Alors, quand on parle de nucléaire, on pense tout de suite à radiation. Quand on parle de champs magnétiques, bien sûr, il y a des champs. Donc peut-être qu'on peut appeler ça des radiations, mais les effets sont très différents.
Le champ magnétique ici, il est statique. Donc le grand champ magnétique, le 21 Tesla qu'on génère avec ses 250 ampères dans la bobine, il est statique, donc il irradie pas. S'il irradiait, ça voulait dire qu'on aurait une perte d'énergie. Ça voudrait dire que de temps en temps, on doit remettre du courant. Et ceci n'est pas le cas. Le champ, il est vraiment statique. Il reste ce qu'il est pendant une durée de vie à déterminer.
Alors, quand on dit 900 MHz, je suppose que c'est par rapport à d'autres valeurs précédentes. Est-ce qu'on peut dire que dans votre domaine, donc la résonance magnétique nucléaire, il y a des générations un peu comme dans les disques durs, hein. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait, tout à fait. Sauf qu'on a presque atteint la limite avec la technologie actuelle du fil supraconducteur. Donc, il existe maintenant 1000 MHz au monde. 1 gigahertz qui est en fait en installation à Lyon. Donc la France est le premier pays à avoir installé un tel spectromètre commercial. Et cela cause énormément de problèmes. Donc la machine, elle a fait un quench, donc ça veut dire qu'elle a explosé. Ils ont dû recommencer. Donc on est vraiment à la limite du fil. Mmh. Maintenant, où on ira vers une nouvelle technologie de fil de supraconducteur haute température, ou autrement, on va rester limité à ces 900, 950, 1000 MHz.
Donc on peut dire que tout ce qui dépasse 950, c'est de l'ordre du prototype et vous avez la machine qui est fonctionnelle.
Voilà, qui est stable, qui est fonctionnelle et qui, d'une façon assez incroyable, elle vient d'être installée. Donc elle est arrivée ici le 2 septembre et la semaine dernière, on a pris les premiers spectres fonctionnels, utiles. Donc en 2 mois, ce qui est un record absolu, je pense.
Alors, quand une machine comme ça arrive dans une université, et ici on est à Lille 1, est-ce que ça se fête ?
Bien sûr que ça se fête. Donc, il y aura une inauguration la semaine prochaine, le 4 décembre, donc, où il y aura des personnalités comme M. Percheron, M. Derosier, mais aussi la directrice du CNRS, donc département de chimie, Mme Chambaud, et le président donc, de l'université. Et après, on compte bien organiser une manifestation plus scientifique pour faire connaître au monde scientifique autour, en France et en Belgique et autour, que cette machine maintenant existe et est opérationnelle.
Alors, on a bien compris votre fierté, on l'a ressenti. Est-ce qu'elle est partagée dans le monde ? Est-ce qu'il y a des jaloux aussi ?
Ah, ça, c'est une question nettement plus délicate. Bon, disons que si quelqu'un est content, la nature humaine veut qu'il y ait quelqu'un de jaloux. Donc, on ne forme pas d'exception.
Alors, s'il fallait situer la France dans les pays en compétition par rapport à cette technologie, par rapport à ce champ d'action, d'activité, est-ce qu'on peut dire qu'on est leader ?
Je pense qu'avec la nouvelle vague d'équipements et surtout avec la structuration de l'RMN très haut champ dans une fédération de recherche TGE très grand d'équipements reconnue par le ministère et par le CNRS, la France a repris sa place de leader. Elle l'avait perdu pendant un certain moment, donc des 800-900, certainement l'Allemagne en avait plus que le double qu'en France. Mais je pense qu'on a rattrapé ça surtout par la structuration, donc de former une communauté qui maintenant englobe les utilisateurs qui sont dans les solides, les matériaux, jusqu'à la biologie, jusqu'à la médecine.
Alors, quand vous dites qu'on n'arrivera pas aux 1000 ou à 1000, il y aura des problèmes évidents, est-ce que ça veut dire que votre 900, il est prévu non seulement pour durer, mais aussi pour être affiné dans sa conception, consolidé, peaufiné, on va dire, ou est-ce qu'il est déjà complètement parfait ?
Non, tout à fait. Donc, il y a une chose qui est l'aimant. Donc, l'aimant tel qu'il est ne bougera plus. L'opération serait beaucoup trop lourde. Mais autour de l'aimant, il y a surtout la conception des sondes, donc les antennes qui permettent de capter le signal de ces petites flèches, de ces spins des atomes, qui, ces sondes contribuent aussi énormément à la sensibilité, la résolution de la méthode. Et là, donc dans le cadre de l'achat de ce spectromètre, on a fait un contrat de recherche avec la société Bruker, qui a développé le spectromètre pour améliorer en effet les sondes, aussi bien en liquide qu'en solide.
Alors, on a bien compris que cette technologie est très pointue. Pour le grand public, elle intervient à quel niveau ? Comment on peut, j'allais dire, la populariser, la familiariser ?
Le grand public la connaît sous le nom d'IRM, d'imagerie de résonance magnétique, qui est en fait l'IRMN, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, mais on a laissé tomber la lettre N, pour éviter la peur du nucléaire du grand public. Dans l'IRM, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la spectroscopie de l'eau, et que de l'eau. Nous, ici, on peut voir au-delà de l'eau aussi les molécules qu'elle contient, les molécules biologiques, les molécules de toutes sortes qu'elle contient. Mais le principe est exactement le même. On va faire une image de la molécule en solution.
Alors, quand on va chercher des images, quand on va au plus profond des noyaux, des objets, je sais pas, des liquides ou des solides ou des gaz, pourquoi pas.
Ou des cellules.
Ou des cellules, voilà. Souvent, c'est qu'on a une petite idée ou qu'on on cherche réellement quelque chose. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut chercher ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi par hasard ?
Ce qu'on peut chercher, par exemple, c'est une... Quelqu'un a développé un médicament potentiel contre un virus, l'hépatite C, découvre maintenant que le virus se mute et donc développe des résistances. Quel est le mécanisme, donc au niveau moléculaire, qui fait que ces résistances se développent et comment on peut le contourner ? Là, on a une claire question. Cette question-là peut être répondue en voyant, en créant l'image de la molécule en complexe avec les médicaments, et en évaluant l'importance de cette mutation du virus.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de mutations. Alors certaines, on dit, elles sont naturelles. Il y a toujours eu des mutations. La preuve, c'est qu'on est ce qu'on est. Et la deuxième chose sont les manipulations créées par l'homme, par les scientifiques. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ?
Soyons clairs que l'RMN sera l'outil pour analyser l'effet au niveau moléculaire de ces mutations. On ne les crée pas nous-mêmes. Et surtout en virologie, actuellement avec le H1N1, un virus, il faut savoir, quand il se copie, c'est une extrêmement mauvaise machine à copie. Elle fait une erreur tous les 100 000 bases. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux virus qui sont les mêmes. Et c'est sa stratégie qu'elle a développée pour, un, survivre dans l'environnement très hostile de la cellule hôte que nous sommes, et deuxièmement, pour développer des résistances rapides. Donc elle a fait une balance entre peu de production, mais facilité d'échapper à des résistances.
Alors est-ce que l'homme, ou plus généralement l'animal, s'adapte également à ces mutations de bactéries, de microbes, etc. Bref, est-ce qu'on est en phase, en avance ou en retard ?
On sera toujours en retard. On sera toujours en retard parce qu'une bactérie se divise tous les heures. Nous, on met plus de temps. Même avec la meilleure volonté du monde.
Quels sont nos amis, alors, nos alliés dans ce combat permanent ?
Je pense qu'un des alliés est en effet de comprendre notre capacité de comprendre les mécanismes d'eux. Et donc, chaque fois pouvoir dire, OK, s'il y a cette mutation-là, nous, on peut faire cette étape-là. Mais c'est un combat éternel qu'on va perdre à terme.
Donc, si je comprends bien votre pessimisme, ça veut dire qu'on n'est pas capable de s'organiser, enfin de se changer en profondeur. Par contre, on a peut-être des protections qu'on peut développer, qu'on peut trouver dans les laboratoires.
C'est donner beaucoup de... Bon, d'abord, il n'y a pas de pessimisme chez moi. Je pense que c'est une constante de la vie, et aussi une constante de la vie qu'on va mourir.
Donc, mais en termes d'espèces, c'est quand même un peu plus complet.
En termes d'espèces, c'est nettement plus complexe. D'un autre côté, l'homme a coexisté avec tous ces virus, avec toutes ces bactéries, tout ça, et on en a besoin. Si on regarde notre propre corps, on a 100 fois plus de cellules autres en nous que de cellules humaines. Autres étant bactéries et virus et tout ça. 100 fois plus de cellules de bactéries dans notre corps que de cellules humaines.
Il y a quelques animaux comme ça qui ont besoin aussi de petits poissons pilotes ou de choses comme ça pour être aidés. On a besoin de béquilles aussi.
Prenez un antibiotique et vous allez manger du yaourt après.
D'accord. Donc dans ce combat, est-ce qu'on peut encore beaucoup miser sur l'intelligence humaine ?
Comprendre les mécanismes d'eux nous aide en effet aussi d'adopter certains comportements qui sont plus raisonnables, oui ou non. Ici, dans le cas de la pandémie de l'H1N1, je pense que juste le fait de comprendre au niveau macroscopique comment une propagation peut se faire permet d'éviter certains comportements.
Alors, quand vous parlez de pandémie, c'est le mot qu'on a prononcé souvent, est-ce que c'est réel ?
Je ne suis ni médecin ni virologue.
D'accord. Et quand quelqu'un, un organisme international découvre des risques, est-ce qu'il vous alerte ? Est-ce qu'il vous questionne ? Est-ce qu'il vous interroge ? Est-ce que vous servez aussi d'expert par rapport à des problèmes ?
Je pense que nous, dans notre domaine, donc on sert comme expert pour élucider des mécanismes de fonction de certaines molécules. Dans le cadre, par exemple, de l'hépatite C, on évalue au niveau moléculaire comment une dérivée de la cyclosporine A qui est utilisée pour le rejet des greffes, contre le rejet des greffes, peut en effet endiguer cette hépatite C. Mais c'est vraiment au niveau moléculaire, ce n'est pas du tout au niveau clinique qui est un autre niveau.
Voilà, donc est-ce qu'il existe quand même des espaces de confrontation ou du moins de réflexion commun avec la communauté médicale par exemple ?
Tout à fait. Donc de nouveau pour donner l'exemple de l'hépatite C, il y a eu un grand congrès à Nice qui a réuni aussi des gens très très moléculaires comme nous que des gens très cliniques, vraiment des médecins de terrain. Et la confrontation des idées nous permet aussi de mieux anticiper presque ce qui va se passer, parce qu'un patient rare qui a une mutation peut présager d'une autre vague de résistance qui va se développer. Nous, au niveau moléculaire, on ne pourrait pas découvrir cela. Ce n'est que le contact avec les médecins et le va-et-vient entre médecins et biologistes fondamentaux qui peut permettre de regarder cela.
Alors, ce contact passe aussi, au-delà du contact physique, par de la communication. Est-ce que vous jugez que, entre les experts de différentes natures, de domaines de compétences par exemple, la circulation est satisfaisante ? Est-ce qu'il y a, au-delà de chaque diversité de professions, on va dire, un organisme qui fédère ou qui aide à l'échange ?
Mais il y a déjà une énorme révolution qui s'est faite depuis, je dirais, 10-20 ans. Qui est donc l'accès à Internet, qui fait que toute la littérature scientifique maintenant est accessible à tout le monde, au moins dans nos pays. Et donc cette littérature scientifique, qui est n'importe quel domaine, devient accessible sur mots-clés, est une richesse qu'on ne pouvait même pas espérer il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on essayait de lire péniblement 3 articles par semaine, maintenant sur mots-clés, on peut en lire 300. La limite devient notre propre capacité d'intégrer toute cette information. Et pour cela, le contact humain reste quand même essentiel.
Alors ce contact humain, est-ce qu'on va le ressentir ou le vivre prochainement autour de cette merveilleuse machine ? Est-ce que vous avez prévu de faire en quelque sorte des animations et puis peut-être aussi d'accueillir vos collègues pour montrer la bête ?
Oui, donc au-delà de l'inauguration, donc on veut certainement par notre intégration dans le TGE accueillir jusqu'à 30% du temps, donc c'est-à-dire quelques 4 mois par an, des scientifiques français ou étrangers autour de la machine. Mais par exemple, fin janvier, on va déjà organiser une première école, un petit colloque de 2 jours, où 2 collègues américains vont venir nous enseigner des techniques pour mieux exploiter les données. Et le 900 a permis cela.
D'accord. Donc on l'a bien compris, l'île devient un lieu important dans votre domaine de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres pays, bon on a parlé des États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont, j'allais dire, aussi porteurs de recherches très intéressantes dans ce domaine, lesquels ?
Dans le domaine de la résonance magnétique nucléaire, il y a certainement des pays qui sont à la pointe, donc il y a la Suisse. Donc, qui est en fait le pays mère de la société Bruker et qui a quand même donné 2 prix Nobel à Zurich avec le professeur Ernst et le professeur Wittrich. Après, donc, la France a été très très bien placée dans le sens qu'il y avait surtout au CEA l'école du professeur Abraham qui a été un des précurseurs total en RMN. Il y a eu la Hollande qui a livré donc Zeeman et donc en fait c'est des noms qui sont devenus des termes dans le domaine des RMN. Et ça c'est probablement la meilleure preuve que le pays a voulu dire quelque chose. Donc il y a eu Zeeman, il y a eu Adbax encore maintenant, même s'il est émigré aux États-Unis. Mais je dis, la France est en train de reprendre sa place.
Alors, cette machine, donc, on rappelle ce nom, enfin ce complexe, hein, mm-hmm. on va dire. C'est comment ?
Donc, c'est un spectromètre de résonance magnétique nucléaire.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des noms humains pour ce genre d'appareil ? Pourquoi pas ?
Oh, ça, c'est d'une bonne côté, mais le mot assiette est aussi étranger pour un martien que résonance magnétique nucléaire.
S'il fallait lui donner un prénom, vous lui donneriez un prénom qui ressemble
RMN. À RMN. Monsieur RMN.
D'accord. Donc, on l'a bien compris, c'est un enjeu considérable pour notre université, hein, Lille 1. Il s'agit maintenant de partager aussi cette machine.
Tout à fait, tout à fait. Mais donc, dans le cadre, déjà dans le Nord, on est regroupé depuis 15 ans dans un groupement scientifique RMN Nord-Pas-de-Calais, qui regroupe donc des laboratoires de Lille 1, de l'Institut Pasteur de Lille, de l'Université de Lille 2, de l'Université de Lens, et on se réunit très régulièrement autour des séminaires, quasiment chaque une ou deux semaines, et ça nous a permis de créer un lien qui est probablement la base de l'installation, du succès de l'installation de ce spectre, nouveau spectromètre.
Donc ce spectromètre est implanté maintenant ici. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme argument pour qu'il puisse venir ? Parce qu'il y a quand même eu des choix qui ont été faits, des choix économiques, des choix politiques.
Donc le spectromètre a été inscrit dans l'axe neurodégénération et démence du CPR, du contrat plan État-Région, par les travaux de notre et d'autres équipes autour, donc, pour comprendre les mécanismes fondamentaux de ces maladies. Donc on a été des tout premiers au monde d'analyser des molécules de cette complexité par résonance magnétique nucléaire, d'abord sur le 600 qui est à l'Institut Pasteur de Lille, le 800 qui est déjà à l'Université de Lille 1, et donc le fait d'inscrire un 900 MHz plus sensible, plus résolutif dans cet axe-là, nous donne aussi un devoir d'avancer dans ces recherches.
Alors, Guy Lippens, par rapport à cette installation, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous faites appel à des personnes, des personnalités, des scientifiques qui ont des compétences qui pourraient vous aider à développer les projets par rapport à cette machine ?
Clairement, comme je dis, donc, il y a Jeff Hawke qui vient de Harvard University ici au mois de janvier, mm-hmm. qui viendra nous montrer comment on fait l'échantillonnage non linéaire sur un tel spectro, autant utiliser des mots encore plus complexes. Et on aura des visites de d'autres personnes par rapport à leurs compétences spécifiques dans l'un ou l'autre domaine. La communauté est quand même relativement ouverte et permet aussi d'échanger des idées et de ne pas rester isolé dans son université avec sa propre petite problématique.
Alors, est-ce que pour autant, votre installation sera ouverte à des doctorants qui viendraient de l'extérieur ?
Oui, oui, dans le cadre du TGE contractuel, on ouvre pour 30% du temps, donc par an. Donc c'est contractuel, on est obligé de justifier l'utilisation par des extérieurs jusqu'à hauteur de 30%. Donc on est vraiment demandeur que d'autres scientifiques viennent avec des questions, avec des problèmes, avec des molécules analysées par ce nouveau spectromètre.
Alors Guy Lippens, pour conclure, peut-être une question ou une réflexion pour l'avenir de la communauté scientifique ou pourquoi pas l'avenir du monde ?
À l'avenir du monde, j'oserais pas, mais l'avenir de la communauté scientifique ici autour de ce nouveau spectromètre, j'espère qu'il permettra donc d'aborder encore plus de problèmes et surtout de souder encore plus cette communauté.
Bien, je vous remercie beaucoup.